ceux qui ne le connaissent pas, Frédéric, c'est 30 ans d'expérience dans le conseil aux actionnaires familiaux. D'abord en tant que notaire, puis en tant que fondateur de Family & Co, que vous avez aujourd'hui transmis. Sans oublier votre première vie en tant que professeur d'université, qui donne un angle particulier à votre approche des sujets qui nous intéressent. Pour lancer cette discussion, Frédéric, vous avez participé le 14 décembre dernier au Family & Business Forum co-organisé par Family & Co, La Tribune et la FBN France. Je rappelle pour ceux qui n'en ont pas entendu parler que le titre de cette première édition était « La France aime-t-elle assez ses entreprises familiales ?» Le replay est toujours disponible sur YouTube. Frédéric, que retenez-vous de votre participation à la table ronde « Peut-on encore développer une entreprise familiale pérenne ?» Et plus globalement, que retenez-vous de cet événement ?
Je retiens avant tout, bien sûr, la qualité et la diversité du panel des personnes qui ont pu s'exprimer, à la fois des entrepreneurs familiaux, des actionnaires familiaux, donc opérationnels ou non, des personnes qui interviennent dans le monde de l'entreprise familiale, et évidemment le ministre Renaud Dutreil, qui est à l'origine de la loi que tout le monde connaît. Donc, quelque chose d'extrêmement qualitatif, et c'était un plaisir de pouvoir contribuer à ce forum. Sous un autre angle, il est quand même étonnant de remarquer que les entreprises familiales, quand elles parlent d'elles-mêmes, sont dans un discours qui, dans une certaine mesure, tourne à l'auto-victimisation, victime bien sûr de la fiscalité, un petit peu victime de cette RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, ou RSA, responsabilité sociétale de l'actionnaire, qu'on tarderait à leur reconnaître, alors qu'elles en ont fait depuis toujours, victimisation autour des difficultés en général de la transmission, difficile à préparer, difficile à encadrer. Et peut-être est-il temps de se dire que les entreprises familiales, maintenant, alors qu'ils travaillent beaucoup au jour le jour, mais doivent, quand elles communiquent, se présenter comme étant totalement actrices et maîtresses de leur destin, et qu'elles ont peut-être un discours ici à trouver, sous l'angle de cette prise de pouvoir, en quelque sorte, sur l'avenir des entreprises familiales, que justement, elles sont elles-mêmes.
Merci pour ça et cette entrée en matière. Pour ceux qui nous écoutent, on va remettre le lien du replay en commentaire de ce podcast. Pour entrer dans le vif du sujet, en préparant cet entretien, Frédéric, on a hésité à centrer cette discussion avec vous sur une thématique spécifique, que ce soit la gouvernance, la transmission, l'identité. Et je vous propose donc de prendre un peu plus de hauteur en commençant par vous poser cette question. Riche de vos 30 ans aux côtés des entreprises familiales et des actionnaires familiaux, quelles sont, d'après vous aujourd'hui, les quatre problématiques auxquelles elles sont le plus confrontées ?
Alors les quatre problématiques qui reviennent assez souvent sont les problématiques liées aux ressources humaines familiales, c'est-à-dire à la gestion des talents familiaux, savoir les attirer, les retenir et, le cas échéant, s'en séparer quand, hélas, ça devient nécessaire. Le deuxième thème, ce sont les branches familiales. On a très souvent des débats autour des branches familiales, pour ou contre les branches familiales dans l'organisation de la gouvernance. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le troisième thème, c'est d'une certaine façon de se demander si l'entreprise familiale ne peut pas être reconnue comme une sorte d'entreprise d'utilité publique, qui justifierait d'ailleurs peut-être son traitement particulier. Et puis le quatrième thème, c'est cette attention portée au next gen, à la nouvelle génération, avec ce terme un peu ambigu, sur lequel je vous propose de revenir aussi tout à l'heure.
Merci. Et sur les RH familiales, donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas vraiment familiers du terme, qu'est-ce qu'on entend par RH familial ?
Alors, j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est la gestion des talents, à la fois cette capacité, bien sûr, à attirer les talents familiaux dans la mesure du possible, si c'est désiré, plutôt que de les laisser partir travailler auprès d'autres entreprises. Et puis surtout, c'est la capacité à garder ces talents, à leur proposer des parcours individuels au service du projet collectif. Alors, si on va maintenant un petit peu plus sur les ressources humaines familiales dans le détail. Mais tout d'abord, c'est une ressource rare. La plupart des groupes familiaux comptent plusieurs dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers de collaborateurs. Et il est quand même très très rare, même dans les familles les plus nombreuses, que le nombre des associés se développe aussi rapidement que le nombre des collaborateurs. S'intéresser à un talent familial, c'est de s'intéresser à une ressource rare. Et se pose déjà une première question, une question de principe, qui se pose assez peu d'ailleurs en France, mais beaucoup plus à l'étranger. l'entreprise familiale souhaite-t-elle absolument attirer dans ses collaborateurs et dans ses dirigeants des familiaux. Il faut savoir que notamment à l'étranger, un certain nombre d'entreprises considèrent qu'il y a un conflit d'intérêts à être à la fois actionnaire, porteur d'un certain message collectif et peut-être d'un message individuel, et en même temps dirigeant de l'entreprise familiale. Et ce sont des entreprises qui parfois fonctionnent très très bien en interdisant en fait aux actionnaires familiaux d'être collaborateurs ou a fortiori dirigeants de l'entreprise. Un autre sujet qui se présente souvent, qui n'est pas toujours résolu de façon très claire, c'est où débute et surtout où s'arrête la famille. Et c'est la question très classique des conjoints. Donc quand je parle de ressources humaines familiales, se pose souvent cette question de savoir si les conjoints eux-mêmes sont attendus d'une certaine façon, les conjoints des actionnaires bien sûr, dans l'entreprise familiale. On pourrait continuer à développer, notamment sur les modes de gestion. L'une des solutions qui a été trouvée par de grandes entreprises familiales, c'est d'avoir un véritable référent ressources humaines familiales. Ce référent peut être un administrateur extérieur, doué bien sûr d'une sensibilité RH. Ça peut être éventuellement le DRH groupe, mais pourvu qu'il ait une certaine liberté de pensée. Et son rôle, ça va être d'attirer à lui un certain nombre de familiaux, d'être capable d'entretenir un discours avec eux, peut-être d'ouvrir ce débat, même lorsqu'un familial n'a pas encore de projet précis de rejoindre l'entreprise, mais lui expliquer quels sont les métiers de l'entreprise, quel pourrait être le champ des possibles pour la personne qu'il a en face de lui, et puis quel pourrait être, le cas échéant, un parcours, encore une fois, pour cette ressource rare. Parce que le parcours pose aussi pas mal de difficultés, en tout cas de questions. Il s'agit d'identifier la personne, de réussir ensuite à scanner ce parcours donc, qui lui convienne, de l'accompagner comme il le faut, et puis évidemment d'avoir la capacité de temps en temps à constater qu'on est en limite de parcours et que les choses doivent s'arrêter. Et dans ce cas-là, d'une part, organiser une sortie en douceur, et d'autre part, se mettre évidemment d'accord sur la communication qui doit entourer ce départ. Alors, un des postes, évidemment, est plus en lumière que les autres. Ce sont les postes de direction. Et là, les entreprises familiales ont mis très souvent sur pied, en plus du référent familial, qui peut aussi s'occuper d'ailleurs des membres des boards qui appartiennent à la famille. Mais disons que dans la transmission de cette direction opérationnelle, la plupart des entreprises familiales ont mis sur pied une gouvernance d'accompagnement, souvent autour du board lui-même, parfois un petit module qui est un extrait des membres du board qui vont travailler avec le dirigeant sortant et avec le dirigeant qui est en train d'arriver pour que les choses se passent au mieux, au rythme qui convient à tout le monde, et probablement pas comme de façon juridique en ayant un CIO ou un président jusqu'au 31 décembre et un autre qui prend la suite juste après, mais en faisant les choses beaucoup plus dans le temps et peut-être fonction par fonction. Et en général, ça se passe très bien dans les entreprises familiales.
Donc finalement, l'important, c'est les modalités de mise en œuvre, c'est de se poser la question de l'intérêt, si je résume un petit peu, des familiaux dans l'entreprise. En deuxième élément, vous citez les branches familiales. Pourquoi ?
Alors les branches familiales, parce que ça fait partie de ces questions qui sont très classiques dans le monde de l'actionnariat familial et qui sont en général assez mal résolues. C'est-à-dire que d'un côté, on a des déclarations de principe et d'autre part, des comportements qui ne correspondent pas tout à fait aux déclarations de principe. Alors d'abord, pour clarifier, il s'agit de ne pas confondre l'importance, on dirait presque historique des branches, l'importance familiale des branches, et la gouvernance construite autour des branches. Que les branches familiales existent, c'est incontestable. Qu'on y attache une importance affective parce qu'il y a des ensembles ou des sous-ensembles un peu culturels ou émotionnels autour de branches, voire de sous-branches, c'est tout à fait possible. Mais qu'ensuite, il faille organiser la gouvernance du capital de l'entreprise et a fortiori sa direction opérationnelle autour des branches, ça mérite quand même d'être éventuellement challengé. Alors les solutions sont très spécifiques à chaque famille. En général, la direction opérationnelle ne regarde pas trop les questions de branches, puisque la prime est donnée à la compétence dans l'intérêt évident de l'entreprise, du groupe et donc indirectement des actionnaires. La deuxième question, c'est que la question des branches pâlit un peu avec le temps. Il est sûr qu'au fur et à mesure que les générations se succèdent, eh bien assez curieusement, l'importance des branches s'estompe. Mais surtout, ce qui est très étonnant, c'est de remarquer que certaines familles disent avoir abandonner les logiques de branche. Puis quand vous regardez la façon dont les droits de vote sont organisés, ou la façon dont les membres du board sont nommés, ou la façon dont des groupes de travail sont constitués, mais vous vous rendez compte que à chaque fois, il est fait référence aux branches. Et puis d'autres qui disent s'attacher beaucoup aux logiques de branche, dans la réalité des faits, ben, n'en tirent pas ou en tirent assez peu de conséquences pratiques. Hein, donc encore une fois, entre les affirmations de principe et ce qui se passe dans la vraie vie, on a souvent des différences importantes.
Merci. Sur votre troisième point, vous citez l'entreprise familiale, entreprise d'utilité publique et donc sa place. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors ça, effectivement, c'est un des sujets qui me tient à cœur, mais sur lequel il faut être très très attentif parce que les choses bougent très vite. Tout le monde dit, et c'est vrai, que les entreprises familiales ont une attention particulière portée au territoire, aux bassins d'emploi régionaux, aux engagements RSE, RSA, je l'ai dit tout à l'heure. Et d'une certaine façon, on pourrait expliquer que ces buts d'utilité publique ou d'intérêt public, un peu comme les fondations reconnues d'utilité publique, ben, peuvent justifier un régime, et notamment le régime de transmission applicable en vertu des pactes Dutreil auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Ça, c'est une vision du moment. Mais si jamais on se met à tourner le film, et notamment de la Startup Nation, hein, qui consiste en fait à expliquer que les startups d'aujourd'hui seront les entreprises familiales de demain, alors là, il faut y regarder peut-être d'un peu plus près. Parce que beaucoup de ces entreprises sont des entreprises du numérique. Elles sont d'une certaine façon aterritoriales, assez éloignées de leur territoire d'origine. La notion de bassin d'emploi n'a pas exactement le même sens, etc. Et non seulement c'est vrai de ce point de vue-là, mais c'est également vrai du point de vue de la rapidité de leur développement. On a des entreprises dans le domaine du numérique qui souvent vivent et meurent sur une seule génération. Alors la richesse, espérons-le, pourra être transmise de génération en génération, mais l'entreprise aura été soit vendue, soit totalement transformée. Et donc, les liens avec le territoire, avec l'humain, j'ai dit, ne sont pas les mêmes, mais en plus, ce sont des entreprises qui sont des étoiles filantes dans un certain nombre de cas. Et donc, ça pose nécessairement un certain nombre de questions. Ça en posera peut-être aussi du point de vue fiscal. Je prends un exemple très simple. Si Amazon, Tesla, Facebook étaient des entreprises françaises, elles seraient toutes justifiables du régime du pacte Dutreil. Je ne suis pas très sûr que ces entreprises valorisées entre 1 et 2 milliards d'euros pour chacune d'elles soient exactement ce que Renaud Dutreil avait en tête lorsqu'il a voulu édicter ce régime de transmission particulier. Et donc, il faut être sans doute très attentif avec ces entreprises qui sont des étoiles filantes. Et donc, c'est peut-être une des limites du modèle, c'est que ces stars mondiales, ces étoiles filantes, soit ne sont pas des entreprises familiales, soit elles deviennent entreprises familiales un petit peu à leur corps défendant, et en tout cas de façon tout à fait incidente. Et c'est peut-être l'une des limites de l'entreprise familiale, c'est qu'elle soit moins adaptée à ces entreprises étoiles filantes.
Merci. Un dernier point, c'était les next-gen.
Ah oui, alors la next-gen, c'est une notion floue par excellence. Alors en soi, ce n'est pas très gênant. Ce qui est peut-être un petit peu plus à questionner, c'est la question de savoir à qui profite le flou ici. Tout d'abord, qui décide que dans une famille, on est next-gen ? Où commence la next-gen ? Où s'arrête-t-elle ? Moi, j'ai rencontré des entreprises dans lesquelles des actionnaires de 50 ans faisaient encore partie de la next-gen. Probablement pas le meilleur indicateur qu'on puisse donner ni aux jeunes, ni même probablement aux anciens. Et puis, au-delà même de ces questions de frontières, est-ce que le concept lui-même a du sens ? Être next-gen, c'est aussitôt être qualifié en fonction de certaines caractéristiques qui, je le répète, sont en général pas très claires et qui sont, dans certaines familles, vécues un peu, quand même, comme un petit ghetto, alors certes très sympathique, dans lequel beaucoup d'attention, de principe est portée aux générations montantes, mais dans la réalité des faits, on voit des gens qui sont souvent associés en nue-propriété, dans le meilleur des cas, avec peut-être un tout petit peu de pleine propriété, invités à des boards, mais évidemment sans voix délibérative, mis sur des parcours de formation, mais en général dont ils ne maîtrisent pas le rythme, les séquences, ni même peut-être l'issue, l'objectif final. Et donc, cette question du flou général autour de la next-gen, moi, me, me conduit, en tout cas à titre personnel, à repousser ce terme, que j'emploie d'ailleurs jamais, et je préfère véritablement parler de la now-gen, c'est-à-dire que tout le monde est actionnaire à un moment, chacun dans son rôle, et que de 7 à 77 ans, ou plus d'ailleurs, alors peut-être pas moins que 7 ans, mais plus que 77 ans, ça certainement, chacun a un rôle à jouer, ce rôle peut évoluer un peu comme une tectonique des plaques, beaucoup plus que d'avoir des next-gen, et puis des gens qui sont en place, et puis d'autres qui l'ont été. Il me paraît quand même peut-être facile, mais en même temps un peu trop facile du point de vue de la diversité et de la richesse de l'actionnariat familial.
On récapitule. Les RH familiales, les branches familiales, la place de l'entreprise familiale dans son environnement, et enfin les next-gen, sont donc d'après vous, Frédéric, les quatre grandes problématiques à suivre de près pour les actionnaires familiaux. Merci pour ce panorama. Tournons-nous maintenant vers les actionnaires familiaux. Si vous deviez donner un conseil à l'actionnaire, et on va mettre des guillemets, à l'actionnaire old-gen, l'actionnaire now-gen et l'actionnaire next-gen, quel serait-il ?
Je ne sais pas si je suis mieux placé pour donner des conseils, mais moi j'observe un certain nombre de phénomènes. Le premier, c'est que les cercles de formation de la pensée, même de revendication, ne sont plus véritablement générationnels, d'une part. Et puis que les enceintes de débat familiales, donc au sein des familles, sont finalement de plus en plus challengées. Alors pourquoi ça ? Si on part de l'hypothèse que la confiance, notamment la confiance dans les familles, repose sur l'équité et sur l'efficacité, hein, ce qui est en général admis, hein, comme les deux piliers de la confiance, il n'est pas absolument certain que la famille réponde ou puisse répondre toujours à ses exigences. Donc, soyons tous très attentifs à ça, parce que comme les gouvernements, les familles risquent de courir ce risque justement de décevoir. Hein, décevoir des attentes, et des attentes qui par ailleurs sont de plus en plus fortes et de plus en plus exprimées. Donc beaucoup d'attentes, de plus en plus fortes, de plus en plus exprimées, mais avec un grand risque de déception de ces attentes. Cela signifie que savoir sans doute recomposer, peut-être même provoquer, hein, la composition de cercles extérieurs à la famille, anticiper les demandes très en amont, hein, par d'autres voies que familiales, pour permettre une réflexion vraiment croisée, un petit peu remontante au sein de la famille, mais aussi très ouverte sur l'extérieur, ça devient une nécessité absolue.
Merci, merci beaucoup Frédéric, merci d'être venu.
Oui, mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager avec vous ces quelques éléments. Merci beaucoup.
Un grand merci Frédéric d'avoir participé à cet échange. Merci d'avoir accepté mon invitation au deuxième épisode du Family and Business Podcast. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité. À bientôt.